Bonjour chers auditeurs, pour ce 95e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, Monsieur V au micro pour vous servir. Je suis avec Jean-Michel Vernochet qui revient d'un séjour en Russie. Vous allez nous en parler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez fait là-bas. Mais d'ailleurs, pour commencer, une première question, comment est-il possible de se rendre en Russie aujourd'hui depuis la France? Comment ça se passe? Quelles sont les démarches?
Est-ce que c'est compliqué? Écoutez, ce n'est pas très commode. Enfin, on peut encore prendre un billet d'avion. Mais évidemment, il n'y a pas de vol direct. Alors, bonjour à toutes et à tous, bien entendu. Vous entendez que j'ai rapporté un peu de refroidissement russe. Mais ça, c'est M. Poutine qui est très méchant avec les ressortissants français. C'est bien connu. Et donc, on peut passer par l'Arménie, Yerevan. On peut passer aussi par Dubaï. J'ai choisi la voie la plus courte, qui est via Istanbul. Enfin bon, c'est pas très commode. Turkish Airlines, ce sont des bétaillères, hein. Convenable. J'ai pas dit confortable, mais convenable. La bouffe y est bonne. Enfin bon, c'est pas très sympa et c'est assez fatigant. Là où on peut faire simple, pourquoi faire compliqué, n'est-ce pas? Et pour prendre son billet d'avion, alors on dit « Ah oui, mais le Quai d'Orsay déconseille très vivement, très fortement de se rendre en Moscou, bon, en Russie ». Alors je peux vous dire que la Russie, c'est sous la neige d'ailleurs, il y avait 1 mètre de neige à Moscou, j'ai commencé par m'étaler d'ailleurs, parce que j'étais bien chaussé, mais mal chaussé quand même. Je me suis retrouvé sur le dos comme une vieille tortue, mais ce n'est pas très grave. Je suis entier de ce point de vue-là. Moscou, ce que j'ai pu en voir, c'est le centre, mais également la périphérie, puisque je me suis rendu dans une très lointaine banlieue, dans un hôpital militaire, pour y rencontrer Erwan Castel, qui combat au Donbass et qui a eu un bras arraché par une mine sautante. Je n'ai pas dit sautillante, mais sautante.
Qui avez-vous rencontré?
Alors, j'ai rencontré donc Erwan Castel. Alors, je termine sur mes premières impressions de Moscou. J'avais déjà vu, mais pas depuis un certain temps. Et c'est une très belle ville, une ville lumière. Il y a des arbres illuminés un peu partout. La ville lumière, c'est plus Paris, c'est Moscou. On n'a pas l'impression d'être dans une ville en guerre. Il y a des affiches de recrutement, mais pas plus qu'il n'y en a dans le métro en France. Des petites affiches, engagez-vous, mais très peu, très très peu. Sur les 30 chaînes dont je disposais à l'hôtel, je n'en ai trouvé qu'une qui traitait apparemment régulièrement du conflit russo-ukrainien. Je précise russo-otanien, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et voilà, donc oui, j'ai été invité par mais je n'étais pas le seul, par le ministère des Affaires étrangères. Donc on va dire que je suis encore un agent d'influence poutinien, moscovite. Bon, je corrige tout de suite, non seulement je ne suis pas rétribué, c'est bien dommage, je ne suis pas comme M. Grumbach, qui lui, en 3 ans de temps, alors qu'il était à la tête de l'Express et qu'il a été démasqué quelques années plus tard, travaillait assidûment pour l'Union soviétique et avait touché l'équivalent à l'époque de 900 000 euros, ce qui représentait une très belle somme. Vive M. Grumbach, ex-patron de l'Express. Et donc, je suis un agent d'influence de la France. J'essaye de comprendre et de ne pas marcher dans toutes les ornières, on essaye de me maintenir. Donc, je n'ai pas vu de signe de dictature policière. Alors, il y a peut-être des signes. Je n'ai pas regardé extensivement tous les médias. Mais les quelques Russes, je n'ai pas dit les très nombreux Russes, mais les quelques Russes que j'ai pu interroger, êtes-vous en dictature? Non, ce n'est pas une dictature. C'est le gouvernement, plutôt le régime soviétique a laissé son empreinte. Mais c'est plutôt dans le bon sens, à savoir, sans parler de rigidité, une organisation sociale disciplinée, un système d'ordre. Et il faut dire aussi, pour ne pas tomber dans les errements de la psychologie collective et de la psychologie sociale, la seule qui vaille d'ailleurs, que les Russes, étant assez bordéliques, par principe, d'être légèrement encadré, ce n'est pas plus mal. Alors, j'ai bien compris que la bureaucratie aussi russe était pire que la bureaucratie française. D'autant que maintenant, ça devient de la bureaucratie électronique, la bureaucratie virtuelle. Je l'ai vu avec le remplissage de ma demande de visa, où il faut ajouter des photos, mais calibrées au millimillimètre près. Enfin, c'est infernal. On devient fou. Vive l'électronique qui est censée nous simplifier la vie et qui nous la complique à outrance. Alors, qui ai-je rencontré là-bas? Alors, j'ai aperçu M. Lavrov, je ne lui ai pas parlé. Il faut être tout à fait honnête. J'ai, par contre, rencontré un certain nombre de militants, je ne sais pas si on peut les appeler russophiles, comme Pepe Escobar, le Brésilien. J'ai vu également, j'ai parlé un peu avec lui, mais il a beaucoup vieilli, avec son nom va me revenir, le grand Indonésien, mais né en fait aux Bahamas. Le nom va me revenir, mais c'est un grand homme, un musulman, bien évidemment.
Cheikh Imran Hossein.
Cher Imran Hossein.
C'est lui.
Voilà. Merci, monsieur V. Toujours. Heureusement, vous êtes mon secours. Je n'ai pas dit ma roue de secours, mais mon secours. Cher, donc, j'ai eu plusieurs petites conversations avec Imran Hossein et avec ses assistants qui étaient fort sympathiques. Même à un moment donné, j'avais un excellent verre de vin de Crimée à la main, mais les jeunes militants musulmans n'étaient pas choqués pour autant. J'ai rencontré j'ai croisé des vedettes comme Xavier Moreau. Et à ma grande surprise d'ailleurs, c'est qu'apparemment beaucoup de gens, un peu à travers le monde, et notamment en Afrique, suivent nos émissions, monsieur V.
Ah, alors nous leur passons le bonjour.
Il y en a un qui est bien monté en graine en parlant d'un art. Moi, je l'ai connu il y a 20 ans quand il haranguait des toutes petites foules, des poignées de foules à la Fontaine des Innocents, et il dénonçait les leucodermes. Les leucodermes, c'est vous et moi, monsieur V. C'est-à-dire ceux qui ont la peau blanche. C'est alias monsieur Kémi Séba, qui était venu du Bénin, et qui, ma foi, est devenu un homme d'une réelle stature. Il y a une personnalité, comme je dis, il y a des arbres qui continuent à pousser pendant longtemps, puis il y en a qui s'arrêtent très vite. Hein. L'homme n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un nomade. Nous sommes des arbres enracinés. Alors bien sûr, nous sommes des arbres qui marchent. On peut se déplacer en tant qu'arbre, mais nos racines sont toujours au même endroit. Et c'est notre boussole à nous. Donc le Kémi Séba m'a semblé être un type d'une certaine stature. Je dis un type, c'est familier, mais c'est pas plus que ça, d'une réelle stature. C'est...
D'ailleurs, je crois qu'il risque de se faire destituer de sa nationalité
oui,
française.
Oui, c'est ce qu'il m'a dit.
Oui.
C'est ce qu'il m'a dit.
Curieux.
Mais il y a des gens qu'on ne destitue pas de leur nationalité française, même s'ils ont suriné deux ou trois passants... dans une rue, des passants de rencontre, ça c'est pas très très grave, mais monsieur Kémi Séba justement est exemplaire en ce sens qu'il commet des délits contre la pensée, hein, le crime contre la pensée de George Orwell. Il pense mal, c'est-à-dire qu'il pense tout court. Nous sommes dans une société où penser constitue déjà un délit. D'ailleurs, on nous le dit bien, certains nous ont dit, personne n'a relevé le sophisme étincelant, accablant. Ceci n'est pas une opinion, c'est un délit. Ben, ça s'appelle un délit d'opinion. Ceci n'est pas une opinion, c'est un délit. Si ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Si une opinion est un délit, c'est un délit d'opinion. Donc un crime contre la pensée. Mais tout le monde a l'air de trouver ça normal. Nous sommes dans une société où la normalité... et sans dessus dessous. Swift, le grand auteur irlandais, parlait de l'homme comme topsy-turvy creature. Topsy-turvy, c'est comme un broomstick, comme un balai, la tête en bas et les pattes en l'air. Topsy-turvy creature. Et c'est vrai, vous voyez, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on peut faire des critiques amères du monde, tel qu'il ne va pas, mais le monde n'a jamais été très très bien. Et ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent à la surface. Sauf qu'autrefois, on avait des moyens radicaux de remettre les choses d'équerre. Et la hache, le fouet et la corde jouaient un grand rôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est mieux que ça. On a des guerres, guerres démocratiques auxquelles nous promettent les gens de la clique de M. Macron, des guerres démocratiques. Il n'y a rien de pire que les guerres démocratiques. La France s'engloutit depuis les grandes guerres napoléoniennes, mais il y a eu ensuite la guerre démocratique, la guerre de 70 contre l'Allemagne, et puis les deux guerres mondiales. Les guerres démocratiques, ce ne sont plus des gens qui sont volontaires pour aller combattre. Il y a des armées de métier, des mercenaires en quelque sorte, ce qui était le cas dans l'Ancien Régime. Mais la liberté étant ce qu'elle est, et la liberté imposant ses règles absolues, nous sommes condamnés à aller mourir, laisser blanchir nos os dans les tranchées, tant est qu'il y ait des tranchées, et bientôt ce sera peut-être sous le feu nucléaire.
Oui, d'ailleurs Macron qui envisage sérieusement d'envoyer des troupes en Ukraine.
Alors j'ai vu un petit dessin russe, parce que un petit dessin humoristique, parce que les Russes, Napoléon tient toujours une grande place. Il y a un musée génial à Moscou, le musée de la bataille de Borodino, en fait c'est la bataille de la Moskova, revendiquée des deux côtés comme une victoire. En fait c'était une boucherie infâme, parce que la guerre c'est quand même vraiment pas très chouette. Donc ce petit dessin russe représente Napoléon qui médite, les pieds à moitié dans une vaguelette qui aboutit au rivage, et puis derrière il y a un de ses officiers qui lui dit « Mais messire, pourquoi voulez-vous aller combattre en Ukraine ?» Et l'autre qui lui répond, quand on va être nucléarisé, au moins l'armée sera sauvée. Voilà. Oui, alors je ne sais pas si on sera sauvé. Toujours est-il que c'est très inquiétant. Parce que s'il y a des maboules chez nous, on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a des bulles d'informations qui explosent un peu partout pour nous dire, peut-être pas nous révéler, nous dire à quel point M. Macron est un sociopathe. D'aucuns diraient un psychopathe, c'est-à-dire qu'il n'a aucune empathie pour ce qui est autour de lui. Il ment avec une facilité, c'est la marque des grands psychopathes d'ailleurs, avec une facilité plus que remarquable. Il ment, on disait autrefois, il ment comme il respire. Et bien, M. Macron n'hésitera pas à envoyer des Français. Lui, il n'ira pas. Hein, il n'ira pas. Quand je dis aujourd'hui les révélations, je vous renvoie au... c'est pas un libre journal, c'est le libre journal que vous êtes en train d'écouter, le numéro 95, dirigé par Monsieur V et votre serviteur Jean-Michel Vernochet. Oui, le libre journal de Campagnol, enfin de Monsieur Combaz, qui est un ancien diplomate, même s'il n'était que diplomate de la culture, mais qui a des réseaux pour des raisons diverses, variée et précise dans les milieux, dans la haute sphère administrative, les révélations de monsieur Macron, de monsieur Combaz à propos de monsieur Macron sont impressionnantes. Alors il s'appuie, Combaz s'appuie sur les textes de monsieur Poussard, de Xavier Poussard, de Faits et Documents. C'est l'occasion ou jamais de faire un peu de publicité pour ce petit journal tout à fait remarquable de précision, de pertinence. Donc si ce qui est dit est vrai, moi je n'ai pas les moyens de vérifier bien entendu, M. Macron est quand même un imposteur de première grandeur. Mais ça nous le savions déjà, à telle enseigne d'ailleurs que M. Rothschild, enfin la famille Rothschild, la maison Rothschild, songerait peut-être à prendre ses distances et ne considérerait plus que M. Macron a un avenir en Europe, à l'Europe, peut-être en succession de Mme von der Leyen. M. Macron n'est peut-être pas le futur président de l'Europe. D'ailleurs, que restera-t-il de l'Europe d'ici quelques mois? Alors, M. Macron voudrait envoyé des troupes au sol, dit si la dynamique, je ne sais pas si la dynamique exige, mais si la dynamique des événements, autrefois il nous parlait de la bête de l'événement, là c'est la dynamique des événements pousse en ce sens. C'est plus qu'inquiétant parce que Monsieur Macron, même si c'est un pervers polymorphe qui s'adonne à certaines substances psychoactives, d'aucuns diraient des psychotropes, n'est pas tout à fait idiot. C'est un très bon acteur, il tient très bien son rôle, il récite bien sa leçon, il s'en mêle parfois, souvent même, les pinceaux. Mais c'est pas grave, il se rattrape toujours aux branches. Il a un sourire, des méchantes langues disent une moumoute qui est très bien accrochée, et il a la dent blanche et le sourire carnassier. Donc Monsieur Macron n'est pas un idiot, et donc s'il dit cela, ce n'est pas par hasard. On peut imaginer, se poser légitimement la question, qu'est-ce qu'il autorise, qu'est-ce qu'il a autorisé à tenir ce type de propos, à donner un coup de pied dans le landerneau de la guerre otano-ukrainienne, otano-russe, pardon. On se demande s'il n'était pas en mission commandée pour lancer un ballon d'essai. Hein. D'autant que son propos faisait écho à des déclarations tout aussi inquiétantes qui ont été tenues à Washington, en disant que on va à la guerre, on va vers la guerre. À force de le répéter, on va y arriver. Ça sera une prophétie auto-réalisée. Et cela tombe au moment où il y a ces révélations sur des discussions entre quatre officiers supérieurs de l'aviation allemande, dont l'un était d'ailleurs à Singapour, sur un réseau non véritablement protégé, mais qui examinait froidement, techniquement, les possibilités d'utiliser le missile de croisière à moyenne portée, c'est-à-dire 500, 600, 500 km, le missile Taurus, pour détruire le pont de Kerch, ce qui serait une atteinte existentielle, on peut dire, à la Crimée. C'est couper le cordon ombilical entre la Crimée et le territoire russe, nous expliquant qu'il faudrait une vingtaine de ces missiles hyper puissants, qui sont des sortes de charges creuses. Il y a une première charge qui explose, puis une seconde, qui ferait déjà percer le tablier pour pouvoir atteindre les piliers du pont. Donc la chose est sérieuse, c'est pas simplement un Kriegsspiel, c'est pas seulement un petit scénario de guerre. Scholz, qui a atermoie sur la livraison de ces Taurus, qui traîne les pieds, sans doute a-t-il raison, est en émoi, toute l'Allemagne apparemment est en émoi, hein. Et en Russie aussi, hein, je puis vous le dire, les Russes, là pour le coup, s'ils ne le savaient pas, découvrent à quel point l'Union européenne, l'Europe de l'Ouest, est vindicative, belliciste. Quand je dis l'Europe de l'Ouest, ce n'est pas la population. La population, elle sait rien, elle est au courant de rien. Elle ne sait même pas que le Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée nationale, est en train de voter cette chose extraordinaire qui est l'inscription du droit fondamental et sacré à l'avortement dans la Constitution, enfin du jamais vu, c'est un cas unique dans l'histoire du monde. Mais on va y revenir si vous le souhaitez. Donc quand même, on est en émoi, on découvre que les choses sont beaucoup plus avancées qu'on imagine, sont beaucoup plus graves que l'on imagine. Monsieur Macron ne fait au fond que lever un petit pan du voile, comme lorsqu'au moment du Covid, il avait eu cette phrase sibylline, la sibylle de Cume, sibylline, la bête de l'événement est arrivée. Alors, tout le monde a interprété ça comme la bête de l'apocalypse. Il n'y a pas eu d'apocalypse. Par contre, maintenant, les rapports se multiplient pour dire surtout pas de dose supplémentaire, pas de dose supplémentaire. On est en train de découvrir qu'il y a une surmortalité réelle, bien réelle, à travers la planète, dans tous les pays qui ont été vaccinés et survaccinés. Ça, bon, laissons, ce n'est pas notre sujet. Donc, inquiétude, inquiétude à Moscou. Alors, j'avais commencé un propos important en disant, si Monsieur Macron, qui est l'objet docile des maîtres de l'état profond mondial, puisqu'encore une fois, quand on dit l'Europe, mais l'Europe, elle en peut, mais l'Europe, elle a des gouvernements qu'elle subit. C'est ce que Maurras appelait le pays légal contre le pays réel. Le pays réel, c'est vous et moi. Nous sommes condamnés à déplorer, à constater et à supporter, à subir et à subir les conséquences de ces dévoiements politiques et autres et moraux. Je pense qu'à la base, il y a un grand dévoiement moral d'ailleurs. Nos élites sont moralement corrompues. C'est pourquoi ils n'ont plus véritablement de colonne vertébrale. Donc Monsieur Macron qui est aux ordres, eh bien,
Plus pour très
fait
longtemps.
écho à une volonté. Alors, je ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ça ne veut pas dire que nous allons avoir la guerre. Ça veut dire qu'il y a simplement un camp de la guerre qui est puissant, qui veille, qui est là. Et les équilibres étant très instables en matière de politique internationale, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. On peut très bien avoir un désamorçage très rapide. Vite, vite, monsieur Trump, vite, monsieur Trump, vite, monsieur Trump, qui lui nous a promis qu'en 48 heures, les choses seraient terminées. D'ailleurs, de ce point de vue, dès le départ, sans même parler de négociation, les choses seraient terminées si on n'avait pas livré d'armes. Fin des combats, faute de combattants, mais surtout faute de munitions. C'est nous qui avons alimenté. Dès le premier jour, j'ai dit, nous jetons de l'huile sur le feu, nous alimentons le brasier de la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Là maintenant, on parle de l'arrivée des F-16, donc on parle des fameux Taurus, les Taurus qui seraient destinés aussi à frapper des dépôts de munitions sur le territoire russe lui-même. Donc il y a une escalade lente, mais bien réelle, bien sensible, et jusqu'où va-t-on tolérer? Alors, grâce soit rendue à M. Scholz, qui a l'air justement de ne pas vouloir entrer dans ce mécanisme infernal, au contraire de ses généraux. Mais les généraux, pourquoi sont-ils faits? Ils sont pas toujours très intelligents, il suffit de regarder ceux qui s'expriment sur LCI, même pas intelligents du tout. Heureusement qu'on n'a jamais été en guerre avec des gainages pareils. Les généraux sont fabriqués, formatés pour faire la guerre. Donc c'est leur métier. Qu'ont-ils envie de faire la guerre? Hein, pour eux, là aussi, sont des jeux sur des cartes, avec des schémas, on déplace. Il faut être plus intelligent que la moyenne, enfin en principe. Et je rappellerai un jeu de guerre qui avait été gagné par un général américain totalement déconnant qui avait fait une simulation, il y avait eu au cours d'une simulation, contre des armées de Saddam ou autres. Et au début du conflit, comme ça se passe, le conflit a été gagné 2 heures avant le début du conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a des AWACS. Les AWACS, ce sont ces super avions, ces sortes de forteresses violentes, volantes, pas violentes, volantes qui brouillent toutes les communications, qui désorganisent tout, donc on ne peut plus identifier les cibles, on ne peut plus communiquer d'un appareil à l'autre, d'un poste de commandement à l'autre. Eh bien, l'astucieux vieil américain, non conformiste, lui, il avait pas, les AWACS pouvaient voler autant qu'il le voulait. Il les avait remplacés par des estafettes à moto. Donc les ordres étaient portés comme à l'ancienne, pas par des pigeons, mais des estafettes à moto. Et ben voilà. Et il avait donc pu manœuvrer sur le champ de bataille grâce à cette astuce. Alors, je vais repartir un peu en amont et reparler de Moscou et de mes impressions. Ce ne sont que des impressions, pas des émotions, des impressions. Moscou, ville lumière, ville propre, malgré la neige, ville ordonnée, où la présence policière n'est pas remarquable. Dans les points névralgiques, les jeunes gens chargés de la sécurité, alors on voit qu'ils sont chargés de la sécurité, mais ce sont des jeunes gens tout à fait bien sous tout rapport, et ce ne sont pas des brutes épaisses avec des scarifications, des cicatrices plein de visage. Alors, il faut noter que si M. Macron fait écho aux psychopathes de Washington et du Pentagone, enfin un certain d'entre eux, si M. Macron est lui-même un peu starbé, un peu beaucoup d'ailleurs, puisqu'il est quand même déclaré qu'on va envoyer des troupes au sol, il faut le faire. Il manque pas d'air, M. Macron. Comme ça lui prend. M. Macron est un roi, un autocrate. Il décide, le Parlement n'existe pas. D'ailleurs, on voit bien que le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat n'existe pas, puisque l'exemple même des retraites nous a montré que on peut négocier, discuter pendant des mois, tout ça est une mise en scène, et à l'arrivée, le fameux texte sur l'immigration, et à l'arrivée, c'est retoqué par le Conseil constitutionnel, qui est le pouvoir suprême dans ce pays. Alors pourquoi avoir un Parlement? Ça coûte très cher. Pourquoi rémunérer des députés qui sont grassement payés avec des avantages en nature extraordinaires? Hein, c'est 7 000 euros de frais de représentation par mois. Enfin, c'est hallucinant. Mais c'est aussi comme ça qu'on les tient tranquilles. Hein, ils n'ont pas envie que la Chambre soit dissoute et de repartir devant leurs électeurs une fois qu'ils sont installés les pieds au chaud, qu'ils pantouflent à l'Assemblée nationale. Pourquoi changer les choses quand elles sont aussi agréables? Eh bien, Monsieur Macron, s'il est lui-même, j'ai utilisé le mot de pervers polymorphe, c'est un mot que Freud, Sigmund, utilisait pour les enfants. C'est pourquoi d'ailleurs on peut rapprocher ça aussi des courants pédophiliques, pédomaniaques d'aujourd'hui. Les enfants sont des pervers polymorphes. Hein, c'est pour ça qu'on leur envoie des drag queens pour faire leur petite éducation tôt dans la vie, même dès l'âge de la maternelle. Eh bien, il faut savoir qu'à Moscou, il y a aussi des psychopathes. Il y en a qui en ont marre, qu'on les. Et qui blâme M. Poutine de ne pas réagir. Dès 2014-2015, quand on a vu, 2015, quand on a vu que les accords de Minsk n'étaient pas appliqués, on demandait à M. Poutine d'intervenir. M. Poutine n'intervenait pas. Alors, il lui-même assurait un difficile équilibre entre différentes forces intérieures, extérieures, entre ces oligarques qui tenaient, à l'époque, qu'ils tenaient à l'écart de la politique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il fallait se prémunir des uns et des autres. Ceci dit, on a attendu 7 ans, mais il est intervenu au Donbass, alors que les accords de Minsk le lui permettaient, hein, qu'ingérence humanitaire comme nous en Libye. On a vu comment s'est transformée l'ingérence humanitaire. Au nom de l'ingérence humanitaire, que ne fait-on pas, que ne fera-t-on pas? Et donc, à Moscou, je puis vous dire, d'ailleurs, on le voit de temps en temps, on passe des extraits de reportages, pas de reportages d'interventions télévisuelles, avec des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on attend pour aller tirer à vue ces connards d'occidentaux-là? Hein, alors, je ne pense pas qu'ils pensent à des objectifs démographiques. Tout le monde comprend ce qu'est un objectif démographique. C'est Dresde, Hambourg, Berlin, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki. Ça, sont des objectifs démographiques. Mais à la doctrine d'usage du feu nucléaire ayant évolué, on pense plutôt à des frappes anti-force. Moi, je pense toujours, il y a Mont-de-Marsan, je crois, et Saint-Dizier, en France, qui sont les grandes bases stratégiques de nos quelques gentilles, misérables rafales qui vont loin, porter au-delà des mers, porter le feu et la destruction. On l'a vu, les rafales sont parties de Saint-Dizier pour aller frapper la Syrie. Mais nous sommes forts, nous avons une forte allonge. Mais à part ça, l'Europe, c'est la paix, nous ne connaissons pas la guerre. On l'a fait partout, mais la guerre n'est pas à l'intérieur. Si, il y a une guerre civile larvée, on tue les gens dans les rues en France, mais c'est la paix et l'insécurité n'est qu'un ressenti, une chimère, un fantasme complotiste. Donc là-bas, à Moscou, mais il y a aussi des psychopathes. Qui seraient prêts, qui en ont marre que l'euratlantisme, les euratlantiques, les euro-otaniens, leur marchent sur les pieds, fassent de la co-belligérance tout en s'en gardant, en disant nous ne sommes pas co-belligérants, non, on ne fait pas la guerre, on fournit des armes à outrance, enfin ce que l'on peut fournir, parce qu'on n'en a pas tant que ça, mais nous ne sommes pas participants de ce conflit. Enfin, c'est se foutre littéralement de la gueule du monde. Et à Moscou, ça ne trompe personne. Je parle dans les cercles idéologiques, les cercles politiques, métapolitiques et autres, qui retiennent, au fond, on dit Poutine est un monstre, mais le monstre, il est en laisse. S'il n'était pas en laisse, qu'est-ce que ce serait, hein? Nous, on roule des mécaniques avec nos 300 petites têtes nucléaires, autant qu'Israël, qui, elle, n'en a pas du tout, hein, c'est bien connu, n'a aucune tête. Mais les Russes en ont 6 000. Hein, c'est 6 000, et puis pas des petits calibres. Plus maintenant, s'y ajoutent les missiles hypervéloces. Donc j'imagine que si les frappes, il y avait des frappes russes, sur le territoire national, elle serait extrêmement ciblée, Saint-Dizier, Mont-de-Marsan, l'île Longue, mais enfin bon, ça ferait des dégâts, psychologiquement aussi. Et puis les Français ne sont pas prêts à... Est-ce que les Français sont prêts à aller se battre pour l'Ukraine? Non, non. Monsieur Macron le sait très bien, mais Monsieur Macron se vante, Monsieur Macron gonfle vanne. Les plumes...
Bientôt, il n'y aura plus d'enfants à envoyer, à se faire tuer, parce qu'on va les tuer dans le ventre de leur mère. C'est notre prochain sujet sur l'IVG, inscrit dans la Constitution.
Alors, cher monsieur V, nous sommes à l'écoute de notre, je dis notre parce que c'est nôtre, notre 95e libre journal sur ERFM et... Nous allons parler, m'avez-vous demandé, de l'avortement. En ce moment même, à l'heure où nous enregistrons, où nous parlons tous les deux, le vote est en train d'intervenir à Versailles, avec le Parlement réuni en congrès, chambre haute, chambre basse, pour inscrire en lettres de feu l'avortement comme un droit sacré dans la Constitution française. Enfin, je ne sais pas si on voit à quel point... La chose est aberrante. L'homme topsy-turvy chrétien marche vraiment sur la tête, comme si sacrifier les enfants, parce que c'est au fond, ce sont des sacrifices humains. Hein. On n'est plus en Tunisie, dans l'hôtel de Tanit, où on tuait des nouveau-nés. C'était des cultes phéniciens. Chez Baal Moloch, on les jetait dans le feu. Et l'Ancien Testament demande d'ailleurs que ces pratiques soient abandonnés, on les jetait, le premier-né était jeté dans la bouche enflammée d'une statue de bronze de Baal Moloch. C'était des mœurs tout à fait civilisées, tout à fait douces, mais dont il reste quelque chose. Nous n'aurons peut-être pas le temps de parler de Gaza, mais là, maintenant, on arrive à un stade où on a une destruction systématique de la population. On vient de le voir avec... ce convoi humanitaire qui a été pris pour cible. Et alors j'en viens à l'avortement, mais la guerre est un moyen de détruire les hommes, l'euthanasie aussi, hein, on en arrivera à sol et vert. Vous aurez le droit à 20 minutes d'une musique apaisante, et ensuite votre corps sera recyclé en, en petites galettes qui serviront à nourrir la population nécessiteuse. On n'en est pas loin. On va nous faire manger des insectes, alors pourquoi pas de l'humain, puisque nous sommes trop nombreux sur cette planète, ce qui n'est pas faux, mais on n'a rien trouvé de mieux. Alors, l'avortement, quand Madame Veil avait plaidé il y a une quarantaine d'années pour cette pratique, pour légaliser cette pratique, ça devait être l'exception de l'exception. L'exception de l'exception, on voit ce que c'est devenu 40 ans après. L'an passé, 230 000 avortements. En même temps, mais sans effectuer de relations de cause à effet, on nous parle de l'hiver démographique. Les Français ne font plus de gosses. Il faut dire que c'est entre le Covid... entre le Covid et les guerres tous azimuts, c'est pas très encourageant. Les petits appartements, les loyers à prix exorbitants, on fait des logements sociaux, on couvre la France de béton et de logements sociaux, mais c'est pas réservé aux Français de souche. C'est un concept qui sera bientôt banni. Il faut l'utiliser d'urgence avant qu'il ne soit interdit. Et voilà, donc... faites le compte, 40 ans multiplié par une moyenne de 100-220 000 chaque année. Vous voyez le compte, si là on n'a pas une sorte de... une sorte de vrai génocide, qu'est-ce que l'on a, hein ? Mais là aussi, ce sont des mots qui sont tabous, qu'il ne faut pas utiliser sous peine des pires sanctions, d'abord morales, médiatiques... voire à l'arrivée pénale, puisqu'il est, encore une fois, interdit de penser, puisque penser, c'est obligatoirement et nécessairement mal penser. Alors, j'ai un de mes bons camarades, qui est pourtant un homme tout à fait éclairé, qui dit « Ah, mais nous, hommes, on n'a pas à se mêler de la question de l'avortement, c'est une affaire de femme. » Alors, c'est curieux chez un homme aussi intelligent d'avoir un raisonnement pareil, comme si l'avenir de l'humanité était une affaire d'homme ou une affaire de femme. Comme si, justement, le destin reproductif, démographique de nos sociétés dépendait uniquement de notre bon plaisir, de nos fantaisies, de nos caprices, de nos contraintes, le cas échéant, puisque beaucoup de femmes disent qu'elles, n'étant pas aidées, n'étant pas soutenues moralement ou matériellement, elles ont dû, sous la pression de... leur entourage, être réduit à ce pis-aller qu'est l'avortement. Et bien oui, il y a des cas effectivement tout à fait dramatiques de ce point de vue-là. Et qui, comme chez les petites filles, l'ablation des seins, tout d'un coup, elles se réveillent après... Il y a une relation de cause à effet. Après l'adolescence, elles disent « mais... j'ai plus de seins, je ne peux plus allaiter, je peux plus... si tant est qu'on ne leur a pas fait une je ne sais pas quoi plastie pour leur remplacer, pour leur recoudre l'utérus, elle ne peut plus allaiter. Alors, il y en a qui pleurent parce qu'elle ne peut plus allaiter. Eh bien, beaucoup de femmes aussi se rendent compte beaucoup plus tard que des occasions ont été manquées, qu'au fond, l'enfant qu'elles portaient inconsciemment ou même tout à fait consciemment, elle le désirait, et que sous la pression de la société, de la mode, pourrait-on dire, presque de la mode, en tout cas des mouvements dominants, des courants dominants, elles s'en sont réduites. Quand on voit nos jeunes femmes, toutes jeunes et toutes bêtes, manifester pour l'avortement, on se pose la question de savoir si elles se font avorter tous les jours, comme si c'était une nécessité absolue, comme si il était aussi important d'avorter que de respirer, ou que de manger, ou que de boire. Alors, cet ami dit « c'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de femme ». Ben non, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de société. L'homme, que ce soit l'homme ou la femme, nous ne nous appartenons pas complètement. Nous appartenons à une communauté, et cette communauté nous impose non seulement parfois une discipline, ce qui serait plutôt bien, mais nous impose des comportements. On ne se balade pas à poil dans la rue. C'est ça la vie en société. La vie en société, c'est que chaque génération doit contribuer à son lot reproductif, mais dans le sens très noble du terme, c'est-à-dire transmettre la vie, transmettre également la culture, la connaissance, l'expérience. Nous sommes là pour transmettre. Et c'est vrai que, désolé de vous le dire, mesdames, que le premier devoir des dames, c'est de transmettre la vie tant qu'elles le peuvent. Hein, et le meilleur âge, c'est entre 20 et 25 ans. Et plus les années filent, et plus la chose devient délicate. C'est-à-dire, il y a moins de chances de procréer. Pensez qu'une jeune femme qui a un enfant à 20 ans, un ou deux enfants, quand elle a 40 ans, ils sont grands. Et elle a encore toute la vie devant elle. Mais nous, on a l'impression que que l'enfant est un obstacle. D'ailleurs, l'OMS, à propos d'obstacles, vient dire que inscrit l'avortement dans le droit à la santé.
Quel rapport ?
Ben oui, quel rapport, monsieur, quel rapport, le droit à la santé. Comme si la grossesse était une maladie. Je ne dirai pas tout sur le dossier, ce n'est pas le lieu, nous n'en avons pas le temps, mais comme si la grossesse était une maladie. Comme si la vie était une maladie. Et maintenant, interruption volontaire de grossesse, interruption médicalisée de grossesse, on peut aller jusqu'au 9e mois. C'est-à-dire, nous avons franchi le pas, discrètement, mais le pas est franchi, vers l'infanticide. Puis bientôt, on verra, aussi, puisqu'on n'arrête pas le progrès, que le curseur se déplace en permanente. Nous verrons aussi peut-être des avortements post-nato. Hein, on tuera les. Après tout, les laboratoires ont besoin d'embryons, de matière humaine, pour leurs cosmétiques, pour leurs recherches. Ce que je dis est atroce, mais c'est vrai. Hein, c'est l'avortement est aussi une industrie, comme la transition de genre et les mutilations des petits-enfants est une industrie qui rapporte gros. Mais c'est une industrie adossée à une idéologie. Il est bien évident qu'on va la résumer en un mot, on dira que cette idéologie est le transhumanisme. Il faut transformer l'homme. Déjà, les communistes voulaient forger un homme nouveau. Pour forger un homme nouveau, ils avaient trouvé le truc. À travers la guerre civile, après la guerre civile plus goulag, on avait éliminé quasiment une ou deux générations. Donc il restait que des jeunes. Enfin bon, l'homme nouveau n'est pas arrivé. Monsieur Lénine avait libéralisé l'avortement tout de suite, comme avant d'arriver au pouvoir, je dis bien le pouvoir, c'est un pouvoir sans partage, il avait annoncé l'abolition de la peine de mort. Elle a été rétablie immédiatement, notamment pour les crimes, le crime d'antisémitisme et autres. Peine de mort rétablie aussitôt. Mais la situation était devenue quand même catastrophique dans la Russie soviétique, et les avortements étant si nombreux, qu'il y a eu une sorte de périclitement de la population. Pensez qu'au moment de la chute du tsarisme, la Russie se représentait à peu près 160 millions d'âmes. Alors on va dire qu'il y a eu les 20 millions de morts de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin maintenant, on est toujours qu'à 140. Hein. Donc il y a quand même un gros trou démographique. Les démographes devraient peut-être se pencher sur la question. Et M. Staline, avec son Gosplan, c'est-à-dire 29, si je ne me trompe, son Gosplan était la réindustrialisation. Mais pas pour rien. Il réindustrialisait pour faire la guerre à l'Allemagne. C'était clair, c'était net. Monsieur Staline n'était pas un doux saint innocent qui ne préparait rien, qui ne voyait rien. Et donc, il interdit, monsieur Staline fait interdire l'avortement. Ben oui, il faut de la chair à canon, hein. Il faut de la viande. Voilà. Dans les usines d'armement, puisqu'il y avait quand même quelques tracteurs, mais parce que on crevait de faim parce qu'on produisait du blé, notamment en Ukraine, mais qu'on exportait. pour avoir des devises et payer les ingénieurs américains qui arrivaient par fourgons entiers. Donc, on faisait du blé, mais ce n'était pas pour nourrir les Russes, les Russes communistes. Dans les usines d'armement, j'ai lu des témoignages tout à fait crédibles. Les ouvriers avaient un plateau avec des trous dans le plateau et une cuillère, mais ils n'avaient ni fourchette ni couteau parce qu'on n'avait pas les moyens de les produire. On produisait des pièces de chars, c'était l'essentiel. Voilà. Donc, en fonction des besoins, on supprime on établit l'avortement, on le supprime ensuite. Ben chez nous, c'est la mode, mais c'est une mode idéologique, celle du transhumanisme. On veut transformer l'homme, faire que la femme soit un homme comme un autre, et la femme un homme comme un autre, mais on n'y arrivera pas. Enfin, on voit bien que l'utopie est d'une rare stupidité, comme M. Lénine qui croyait qu'il suffisait de collectiviser et tout le monde aurait été égaux. Dès que la révolution a été faite, on a rétabli des hiérarchies. Il y a eu des camarades ouvriers plus camarades ouvriers que les autres, donc des camarades patrons. Il y a eu une nomenclatura et la société n'a cessé de se re-hiérarchiser et redifférencier pour revenir. On n'avait plus l'aristocratie, mais la nouvelle aristocratie, c'était une partie. Nos camarades communistes qui croient encore à ces billevesées ferait bien de réfléchir à ça. Si le communisme a échoué, c'est parce qu'il était mortellement stupide, malgré l'énorme appareillage apparemment scientifique élaboré par M. Marx. Mais c'est pas parce qu'on a une énorme machine, ce qu'on appellerait aujourd'hui une usine à gaz, que l'usine à gaz est censée fonctionner.
Allons cette fois-ci du côté de Gaza, d'Israël et Gaza, où l'ancien Premier ministre Ehud Olmert déplore effectivement le massacre qui est en cours, ce qui peut être assez surprenant de la part d'un dirigeant israélien, un ex-dirigeant.
Alors Ehud Olmert est assez constant dans ses prises de position. C'est un opposant à Netanyahou, comme M. Navalny était un opposant à M. Poutine, et d'abord un opposant à M. Poutine. M. Navalny n'était pas un résistant, n'était pas un dissident comparable à Solzhenitsyn. On ne compare pas les nains aux géants. Bon, voilà. Et paix aux cendres de M. Navalny, qui aurait mieux fait de ne pas revenir en Russie, mais qui est revenu sur ordre, puisque on voulait mettre une épine dans le pied, dans la chaussure de M. Poutine, ça a tourné court. Et d'ailleurs, vous constaterez avec moi, puisque nous parlions de Moscou, que même si on a vu des images avec une foule réelle, mais je ne dirais pas clairsemée, une foule réelle aux obsèques de M. Navalny, M. Navalny n'était pas un parangon de vertu. C'était un nationaliste, et apparemment un nationaliste aussi un peu vénal. Enfin, c'est pas pour salir sa mémoire. Voilà. Alors, M. Olmert, lui, est constant dans la dissidence, dans son opposition à M. Netanyahou, mais avec des arguments publiés par Haaretz, qui est l'équivalent du Monde, donc un grand journal de gauche, qui sont tout à fait pertinents. Et il tire la sonnette d'alarme. Il n'est pas le seul, en disant que si on poursuit cette politique qui est épuration ethnique à Gaza, mais également épuration ethnique en Cisjordanie, ce que je dis moi-même depuis le départ, avec un raidissement des 500-600 000 colons qui occupent la Cisjordanie, qui l'occupent de plus en plus. On ne voit pas très bien comment ces colons qui sont armés, protégés par l'armée aussi, par les forces armées, pourraient ne pas avoir gain de raison, gain de cause face aux Palestiniens qui, eux, ne sont pas si armés que ça. En tout cas, ils ne le sont pas beaucoup. Monsieur Netanyahou veut son grand Israël, mais à force de s'entêter, errarum humanum est, l'erreur est humaine, perseverare diabolicum. Persévérer et satanique, diabolique. Monsieur Netanyahou est en train d'entraîner éventuellement, d'ailleurs, eu égard à la perte de crédit de l'État d'Israël lui-même et de son mentor américain, Monsieur Biden, est en train d'entraîner l'Amérique, je ne dis pas dans sa chute, mais on parle de l'Occident collectif, mais enfin l'Occident collectif se trouve confronté au Sud global, et le Sud global, ça pèse très lourd. L'Inde, la Chine, l'Indonésie, c'est immensément de monde, le Nigeria, l'Afrique du Sud. C'est beaucoup, beaucoup de monde et ça pèse très lourd. D'autant que les États-Unis ont trouvé très malin de sortir la Russie du système SWIFT, d'échanges internationaux, monétaires. Donc quand vous allez en Russie, franchissez la frontière, votre argent ne vaut plus rien. Les cartes bancaires ne servent à rien. Il faut changer, il faut avoir du liquide et le changer pour obtenir des roubles. Ce qui n'est pas très pratique. Et donc, vous ne pouvez plus rien acheter. Vous ne pouvez pas acheter un billet d'avion avec une carte. Voilà, il faut penser à ça. Les sanctions sont réelles, elles sont gênantes, elles sont lourdes, mais finalement, l'ours russe arrive à courir en traînant ses chaînes. Donc, Ehud Olmert tire la sonnette d'alarme. Il dit, mais... On va droit dans le mur, d'autant qu'on n'a pas d'informations sur les pertes israéliennes réelles, mais elles seraient visiblement beaucoup plus importantes que dites ou non dites. On arriverait peut-être à 5 000 soldats hors service, c'est-à-dire morts ou gravement blessés. Ce pourquoi d'ailleurs les forces israéliennes patinent. Ce pourquoi ça les rend méchantes. Et tirer sur un regroupement humanitaire qui attend dans des camions qu'on lui délivre du pain ou de la farine, faut quand même faut aller très loin. Alors, bien sûr, notre chef d'état-major israélien nous dit, c'est un incident. Ben oui, on balaye ça d'un revers de main. C'est une bavure, c'est pas grave, on n'y peut rien. Nous restons et nous demeurons l'armée la plus morale du monde. Enfin, ça fait 100 morts et plusieurs centaines de blessés d'un seul coup, hein, ce qui est pas mal. Les avertissements arrivent aussi de Washington, hein, de façon réitérée. Même M. Biden demande un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu d'autant plus nécessaire que les gains affichés au départ, les objectifs ne sont pas remplis. Un, l'objectif, c'était la destruction du Hamas. Pour l'instant, on n'a pas tellement tué de chefs du Hamas. Les couloirs de la mort, là, en dessous, sous Gaza, on n'en a vu qu'un ou deux, et pas grand-chose. Où sont les otages? Alors, le deuxième objectif, c'était libérer les otages. Enfin, les otages, beaucoup ont été libérés. Dans des échanges. Déjà, je crois, 400, 500 Palestiniens incarcérés pour non-crime de sang, hein, dans les geôles israéliennes ont été élargis. Ceci étant dit, il reste en Israël 4 ou 5 000 otages, hein, des Palestiniens. Alors, certains ont commis des crimes, mais pas tous, et on ne voit pas pourquoi cela ne serait pas libéré. On a arrêté et emprisonné des gamins, des femmes, sous prétexte qu'elles manifestaient un peu trop bruyamment, ou des gamins sous prétexte qu'ils jetaient des cailloux. Donc on parle des otages d'un côté, on ne parle pas des otages de l'autre. Mais il est vrai que la vie des uns ne vaut pas la vie des autres. Hein, il y a deux poids, deux mesures. Si monstrueux que personne n'ose l'évoquer. Alors, je vous ferai observer qu'il n'y a pas un seul journaliste d'un seul grand journal français qui soit à Gaza même, à part des correspondants arabes. Et encore, ils sont tous de l'autre côté, hein, de la barrière. Et donc, qui n'entend qu'un son, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, il est bien clair que là, la propagande israélienne, on gobe tout, j'allais dire à gorge déployée, on avale ça, on entonne ça sans aucune mesure, sans aucune limite, puisque l'armée israélienne, armée la plus morale du monde, ne peut dire que la vérité. Ça tombe sous le sens. Donc, si l'Amérique, ceci dit, voulait être cohérente avec elle-même, Et la Maison-Blanche, on cesserait immédiatement les livraisons d'armes, à l'État israélien, les bombes, les missiles, les obus, et de même qu'on aurait pu le faire pour l'Ukraine. Et là, tout d'un coup, tout s'arrêterait dans la minute qui suit. Mon propos est peut-être un peu optimiste, mais enfin, il y a de ça. Quand on ne veut pas qu'un conflit perdure, se prolonge, eh bien, on n'alimente plus en armes, point. Je pense que si nos hommes politiques avaient du courage, c'est ce qu'ils demanderaient en priorité.
Très bien.
Ah ben, Monsieur V, merci infiniment pour ce rendez-vous. J'espère que nous aurons apporté des éléments de réflexion à tous nos auditeurs et amis. IS, IES, pour parler IEL. Et surtout, au liqueur, parce qu'il faut résister maintenant. Et résister assez fort aux pressions ambiantes et dominantes.
Très bien, merci beaucoup à vous, merci chers auditeurs. N'oubliez pas de nous soutenir et de continuer à lire.
Et d'acheter les livres de Jean-Michel Vernochet.
Principalement.